RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivi le commentaire et l'histoire d'aujourd'hui. Et nous allons également présenter la rubrique Mon Indonésie. La rubrique suivante est le magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, nous présenterons des musiques indonésiennes. Voilà le programme pour aujourd'hui et écoutons maintenant le journal et le commentaire.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici donc le journal. Nous commençons avec les titres. Bappenas s'inquiète de la guerre commerciale des États-Unis et la Chine a un impact sur l'économie régionale. Le ministère des Communications et des Technologies de l'Information soutient les Asiatiques à travers l'application Duta Supporter Indonesia. Forum de développement d'Indonésie 2018 soulève la question des disparités régionales en Indonésie. Coopération indo-française dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et enfin, le président Jokowi a dit que l'Indonésie est incluse dans la liste des 10 pays les plus sûrs dans le monde. Voici le journal complet. Monsieur Bambang Brojonegoro, ministre indonésien de la planification du développement national, en tant également le chef de l'Agence nationale de planification du développement, ou Bappenas, craint qu'une guerre commerciale dirigée par les États-Unis affecte le développement économique régional en Indonésie, parce que l'impact de la guerre commerciale a le potentiel de conduire à une zone avec des personnes qui dépendent de l'industrie manufacturière, en particulier les textiles. La raison en est que les textiles deviennent l'un des biens d'exportation qui seront touchés par l'élimination du système de préférence généralisée ou GSP par les États-Unis. C'est ce qu'a déclaré Bambang en marge du Forum indonésien du développement IDF 2018 à Jakarta mardi le 10 juillet.
Bagaimana kira-kira nanti potensi dampak dari perang dagang? Ya kita harus lihat.
Que diriez-vous de l'impact potentiel d'une guerre commerciale? Oui, nous devons voir quels secteurs sont touchés. Peut-être le secteur manufacturier. Sa fabrication peut être liée au textile, mais il pourrait aussi plus tard, si les États-Unis contestent l'Indonésie concernant les produits qui ont actuellement le GSP ou système généralisé de préférence. Bien sûr, cela affectera également les exportations de l'Indonésie vers les États-Unis. Si alors nous faisons face à des obstacles des États-Unis, mais nous pouvons détourner nos produits d'exportation vers d'autres pays, alors ce n'est pas un problème. En outre, Bambang Brojonegoro a déclaré que l'Indonésie devrait être prête à faire face à toutes les possibilités de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. L'une des façons à faire par le gouvernement indonésien est d'accroître la compétitivité afin que les produits d'exportation indonésiens puissent être détournés vers d'autres pays si l'Indonésie envisage des obstacles des États-Unis liés aux exportations. En outre, Il est également prévu que les négociations menées par le gouvernement indonésien avec le gouvernement des États-Unis continueront de produire le meilleur accord possible dans l'intérêt des deux parties. La semaine dernière, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il allait évaluer 124 produits ou des produits d'exportation entrant dans son pays. Le gouvernement des États-Unis prévoit de révoquer les tarifs spéciaux ou les installations de GSP dont il bénéficie à l'égard des produits exportés de divers pays, y compris l'Indonésie. Le ministère des Communications et des Technologies de l'Information a publié l'application la semaine dernière Duta Supporter Indonesia ou Ambassadeur des Supporters Indonésiens à Palembang pour soutenir les Jeux Asiatiques de 2018. Le dirigeant de l'équipe de développement de l'application de Duta Supporter Indonesia, Enda Nasution, dans une interview spéciale avec La Voix d'Indonésie à Jakarta, a déclaré que l'application avait été développée pour impliquer les Indonésiens de 34 provinces aux Jeux Asiatiques de Jakarta et Palembang, Sumatra du Sud. À travers de cette application, lancée du 7 juillet jusqu'à 30 prochains jours, le ministère des Communications et des Technologies de l'Information a organisé un concours pour élire 68 personnes comme ambassadeurs des supporters indonésiens de toutes les provinces. Selon ENDA, la participation de la jeune génération à devenir un ambassadeur des supporters indonésiens est assez élevée.
Dalam waktu dari 7 hari kemarin sampai tadi malam itu ada sekitar 12.000 yang
au cours des 7 jours qui ont précédé la nuit dernière, 12.000 personnes se sont inscrites, mais c'est différent dans chaque province. Il y a quelques provinces qui ont beaucoup d'inscriptions, mais certaines ne sont pas, parce que nous choisissons un gagnant dans chaque province, mais nous l'avons également promu dans les médias sociaux. Il y a eu plus de 3 millions d'Indonésiens dans 34 provinces qui ont vu cette application. Enda Nasution a également expliqué que l'ambassadeur des supporters indonésiens qui avait été élu recevra l'invitation pour assister à l'ouverture des Jeux Asiatiques de 2018. 68 personnes se composent d'un homme et d'une femme de leur province respective. Les ambassadeurs de supporters sont sélectionnés sur la base du vote du public après avoir terminé leurs tâches données chaque semaine. Le ministère de la Planification du Développement National, ou BAPENAS, soutenait l'initiative sur le secteur des connaissances, un programme de collaboration entre le gouvernement de la République d'Indonésie et l'Australie, a tenu le Forum de développement de l'Indonésie, IDF 2018, du 10 au 11 juillet à Jakarta. La FDI est un forum international pour discuter des questions stratégiques et du programme de développement prioritaire de l'Indonésie, ainsi que pour trouver des solutions innovantes adaptées au contexte de développement en Indonésie. Cette année, le FDI a spécifiquement soulevé le thème Percée pour surmonter les lacunes interrégionales en Indonésie. Le ministre de la Planification, en tant que chef de BAPENAS, Bambang Brojonegoro, lors d'une conférence de presse qui a eu lieu à Jakarta mardi le 10 juillet, souhaite par FDI qu'il y ait initiative, l'innovation et l'idée de certaines régions qui pourraient être un exemple pour d'autres régions pour surmonter les problèmes.
Karena itu dalam Indonesia Development Forum kali ini, kita ingin mengangkat inisiatif inovasi.
Dans le Forum de développement de l'Indonésie cette fois, nous voulons lancer l'initiative, l'innovation, les idées qui peuvent être se dérouler bien dans certaines régions et nous espérons que d'autres régions apprendront les unes des autres pour être en mesure de faire des modifications, imiter mais faire des modifications. Et nous espérons aussi que cette idée peut émerger de groupes communautaires. Bambang Brojonegoro a déclaré que l'écart entre les régions était un problème complexe et multisectoriel. Par conséquent, le gouvernement de l'Indonésie a besoin de contributions de tous les gens, tels que les entrepreneurs, les universitaires, le grand public et les jeunes, pour trouver une solution basée sur des preuves concrètes et cartographier de nouvelles approches innovantes. Le thème du Forum de développement d'Indonésie 2018 est une manifestation dans l'ordre du jour de Nawacita indonésien du président Joko Widodo, à savoir développer l'Indonésie de la périphérie en renforçant le secteur social, économique et développer les ressources humaines en Indonésie, y compris les régions sous-développées et les îles. L'université Confdra Leonardo da Vinci, en collaboration avec le ministère indonésien de la Recherche, Technologie et l'Enseignement supérieur, Institut France Indonésie et l'ambassade d'Indonésie à Paris, font le deuxième groupe de travail conjoint dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche au Palais des Congrès de Futuroscope Poitiers. L'attaché de l'éducation et de l'ambassade d'Indonésie à Paris, Surya Rosa Putra, a déclaré à Antara Londres mercredi que le groupe de travail conjoint sur l'enseignement supérieur et la recherche et la mise en œuvre de l'accord sur l'enseignement supérieur entre l'ambassade de France à Jakarta et le ministère de l'Éducation et de la Culture en 2011. Selon Surya Rosa Putra, le groupe de travail conjoint est fait par les deux pays chaque année à tour de rôle. L'objectif est d'évaluer la coopération de l'année dernière, formuler une coopération une année à venir et donner une opportunité au collège de concevoir la coopération et d'autres activités de manière autonome. Le dixième groupe de travail conjoint s'étend aux aspects de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Le président indonésien Joko Widodo ou Jokowi a affirmé que l'Indonésie était incluse dans la liste des 10 premiers pays les plus sourds au monde. C'est ce qu'a affirmé le président Joko Widodo lorsqu'il devient l'inspecteur de cérémonie lors de la célébration de la journée de Bayangkara à Jakarta, mercredi le 11 juillet, qu'il a reçu de bonnes nouvelles de Gallup Law and Order qui place l'Indonésie parmi les 10 pays les plus sourds du monde. Le chef de l'État a déclaré qu'il était fier des résultats obtenus grâce au travail acharné de divers éléments de la nation, notamment le dévouement et le travail acharné de la police nationale au Polri. Il a cependant rappelé à la police de rester prête pour les défis futurs qui deviennent de plus en plus complexes, y compris le terrorisme. Le président a demandé à la police de maintenir l'harmonie et de maintenir des valeurs de la diversité, d'anticiper les divers potentiels des conflits horizontaux qui soulèvent des questions primordiales telles que les différences ethniques, religieuses et raciales. Serviteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Quiz international de la Voix de l'Indonésie 2018. Vous rêvez de visiter ce beau pays? Réalisez votre rêve en participant au quiz international de la Voix de l'Indonésie de l'année 2018. Si vous avez de la chance, la Voix de l'Indonésie vous invite de passer des vacances et profiter de la beauté de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez les bâtiments historiques de Bandung que vous connaissez. 2. Par quel moyen écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? En streaming ou en ondes courtes? Pourquoi? 3. Quel est votre programme préféré de VOI? Envoyez vos réponses avec des données personnelles, votre numéro et la date d'expiration de votre passeport à notre email voiquiz2018@voinews.com. voix.id. Je répète, VOI Quiz 2018 à voinews.id. Avant le 31 juillet 2018, de 24 heures temps universel.
Les commentaires. Le point de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie, sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Où le gros budget pour l'éducation ?» Le budget national de l'éducation 2019 a atteint 444 trillions rupiah. Malheureusement, l'éducation nationale n'a pas encore montré une bonne qualité. Le monde de l'éducation en Indonésie face encore aux questions classiques, notamment la qualité des enseignants et des programmes éducatifs. La ministre indonésienne des Finances, Madame Sri Mulyani Indrawati, a critiqué le développement de l'éducation dans ce pays. Selon Sri Mulyani, le budget de l'éducation augmente chaque année. La loi prévoit un budget annuel de l'éducation de 20% du budget de l'État ou APBN, où le montant est toujours en hausse car les recettes et les dépenses de l'État sont également en augmentation. Le montant de l'allocation budgétaire pour l'éducation ne produit pas une qualité satisfaisante de l'éducation. Où est le gros budget? Si nous regardons le budget de l'éducation de l'Indonésie qui atteint 3,0% de produit intérieur brut, ce fonds est suffisant pour développer l'éducation. Mais pourquoi ne pas améliorer significativement la qualité de l'éducation en Indonésie? Sur les 20% de l'allocation budgétaire pour l'éducation, la plupart est utilisée pour payer le salaire, les allocations et la certification des enseignants ainsi que pour le développement de l'infrastructure éducative. Le montant de l'allocation pour le salaire, indemnité et la certification des enseignants est critiqué par de nombreuses parties dans le pays, y compris par la Banque mondiale, car il semble ignorer certains aspects du développement des compétences des étudiants. La Banque mondiale a critiqué l'allocation du budget de l'éducation en Indonésie, qui est plus utilisée pour les enseignants que pour les étudiants. Le directeur de la Banque mondiale pour l'Indonésie, M. Rodrigo A. Chavez, a déclaré que si l'Indonésie maintient cette condition, l'Indonésie aura besoin de beaucoup de temps pour atteindre le moyen de compétences des étudiants selon les normes de l'Organisation mondiale de coopération au développement. Et alors, qu'est-ce que c'est mauvais pour la politique gouvernementale d'allouer la plus grande partie du budget de l'éducation pour le salaire, les avantages sociaux et la certification des enseignants? La fourniture de salaire et d'avantages ainsi que la certification des enseignants dans le budget de l'éducation est appropriée pour les conditions actuelles. Cela devrait être fait parce que l'un des problèmes fondamentaux dans le domaine de l'éducation dans ce pays aujourd'hui est le faible niveau de bien-être des enseignants dans de nombreuses régions. En raison de problèmes de bien-être, les enseignants ne se concentrent pas sur l'enseignement des élèves. Pour les raisons de bien-être, les enfants intelligents en général ne sont pas intéressés à devenir des enseignants. Les enseignants sont la clé du succès de l'éducation. Pas de problème si un gros budget pour l'éducation est utilisé pour les salaires, indemnités et la certification des enseignants. Celui qui doit être amélioré est la fourniture d'avantages. La certification doit être correctement mise en œuvre pour surveiller la qualité des enseignants. La qualité des enseignants est très influente sur la qualité de l'éducation.
si le grand budget du gouvernement central sont absorbés pour payer les salaires, indemnités et la certification des enseignants, le budget ne devrait pas être négligé pour les aspects de développement des compétences des élèves. Il ne doit pas augmenter le budget de APBN ou de budget de l'État pour le développement des compétences des étudiants. L'engagement du gouvernement provincial est encore faible dans l'allocation de 20% du budget de dépenses régionales pour l'éducation. Le ministre de l'Éducation et de la Culture, M. Muhajir Effendi, a déclaré que 20% du budget de l'éducation ne s'applique pas seulement au budget de l'État, mais aussi au budget régional. Le gouvernement local a alloué 20% de APBD au budget régional pour le budget de l'éducation. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir tous les auditeurs de RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie. N'importe où que vous soyez, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 12 juillet. On commence par le 12 juillet 1947, la détermination de la Journée nationale des coopératives. La coopérative est une institution économique très appropriée en Indonésie parce qu'elle est sociale et parentée. La coopérative a été introduite en Indonésie par un pamong Prajapati Arya Wiratmaja à Purwokerto, Java Central, en 1896. Il a fondé une coopérative de crédit qui vise à aider son peuple qui a beaucoup de dettes avec les usuriers. La coopérative s'est ensuite développée rapidement et a finalement été imitée par Budi Utomo et Serikat Dagang Islam. En 1942, le Japon a occupé l'Indonésie. Le Japon a ensuite établi une coopérative Kumiai. À l'avant, cette coopérative s'est bien déroulée, mais sa fonction a changé radicalement et elle est devenue un outil du Japon pour en profiter et pour rendre les gens misérables. Après l'indépendance de l'Indonésie, le 12 juillet 1947, le mouvement des coopératives en Indonésie a organisé le premier congrès coopératif à Tasikmalaya, Java de l'Ouest, initié par Muhammad Hatta. Le congrès a stipulé, entre autres, le 12 juillet comme une journée coopérative et l'établissement de l'organisation centrale des coopératives populaires qui est située à Tasikmalaya. Le 12 juillet 1975, le Monument national est officiellement ouvert au public. Le Monument national, ou populairement appelé Monas, est un monument commémoratif de 132 mètres qui est établi pour commémorer la résistance et la lutte du peuple indonésien à s'emparer de l'indépendance du gouvernement colonial des Indes néerlandaises. La construction du monument a été commencée le 17 août 1961 sous l'ordre du président Sukarno et a été ouverte au public le 12 juillet 1975. Ce monument est couronné de flammes qui est recouverte de feuilles d'or, ce qui symbolise l'esprit d'une lutte ardente. Le monument national est situé au milieu de la place de Medan Merdeka, Jakarta Central. Ce monument et musée sont ouverts tous les jours au public, sauf le lundi. Le le 12 juillet 1990, le début de la destruction de l'Union soviétique. Le 12 juillet 1990, Boris Yeltsin a choisi de se retirer du Parti communiste de l'Union soviétique. Le déclin de Yeltsin est un désastre parce qu'après sa retraite, la destruction du pays superpuissance a commencé. Le départ de Yeltsin du Parti communiste et la réélection de Mikhail Gorbatchev en tant que dirigeant du parti, c'est-à-dire il dirige aussi l'Union soviétique. À ce moment-là, ce n'est pas seulement Yeltsin qui a rejeté le retour de Gorbatchev, mais la liste du Parti communiste a également critiqué. La critique des cadres du Parti communiste et Yeltsin à Gorbatchev est différente. Yeltsin voulait une démocratie totale et transformer le système communiste soviétique en un système multipartite, tandis que les sympathisants radicaux rejetaient Gorbatchev à cause de la mauvaise politique et économie. Voyant le barrage d'attaque, Gorbatchev a finalement choisi de démissionner de son poste. En décembre 1991, Gorbatchev a officiellement quitté le siège du président. Automatiquement, après l'annonce de sa démission, l'Union soviétique officielle a été dissoute. Après l'effondrement soviétique, Boris Yeltsin a été élu président de la Russie et a régné du 10 juillet 1991 au 31 décembre 1999. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Indonésiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Modernisie, intitulée « Augmenter la sensibilisation pour conserver le récif corallien ». La ministre de la Marine et des Pêches, Madame Susi Pujiastuti, a demandé à la communauté internationale d'accroître la sensibilisation à la conservation des récifs coralliens dans les eaux mondiales, notamment la jeune génération. La ministre Susi, dans un communiqué de presse du ministère de la Marine et des Pêches à Jakarta dimanche, a déclaré que le gouvernement pouvait accroître la sensibilisation à la conservation des récifs coralliens à partir de la jeune génération. Elle a dit qu'une étape simple qui pourrait être faite en donnant les lunettes de plongée aux écoliers afin qu'ils puissent voir la beauté et divers récifs coralliens dans la mer. Le gouvernement indonésien a distribué des lunettes dans les endroits tels que le village de Sahari, le district de Fakfak Timur, la Papouasie occidentale et le village de Bone Baru, la région de Bangalaut dans le centre de Sulawesi. Ainsi, le gouvernement améliore le sentiment de l'amour, le sentiment d'appartenance et sa conscience de l'importance de maintenir le récif corallien durable. Demander aux enfants et à la jeune génération de préserver le récif corallien sans qu'ils sachent et voient directement de la beauté sous-marine et l'effort futile. Cela a été dit par la ministre Susi lors de la cérémonie de passation du secrétariat de l'Initiative internationale pour les récifs coralliens de France à l'Indonésie, l'Australie, Monaco, à Paris en France, mercredi. Le principal programme de gestion des récifs coralliens peut être utilisé par ICRI pour gérer les aspects techniques des opérations, notamment dans les pays en développement qui sont encore confrontés aux obstacles de la gestion durable des récifs coralliens en raison des défis de dimension sociale et économique. Par conséquent, la présidence conjointe de ICRI entre l'Indonésie, l'Australie, Monaco a convenu d'un objectif, à savoir la restauration des écosystèmes des récifs coralliens à travers la restauration des communautés côtières. Lors de la réunion de ICRI à Paris, le ministre associé a déclaré que l'Indonésie continuerait à renforcer la coopération dans la conservation et la gestion des récifs coralliens et à prévenir l'impact du changement climatique en construisant la résilience des récifs coralliens. Chers amis, c'était la rubrique « Mon Indonésie » de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Quiz international de la Voix de l'Indonésie 2018. Vous rêvez de visiter ce beau pays? Réalisez votre rêve en participant au quiz international de la Voix de l'Indonésie de l'année 2018. Si vous avez de la chance, la Voix de l'Indonésie vous invite de passer des vacances et profiter de la beauté de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez les bâtiments historiques de Bandung que vous connaissez. 2. Par quel moyen écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? En streaming ou en ondes courtes? Pourquoi? 3. Quel est votre programme préféré de VOI? Envoyez vos réponses avec des données personnelles, votre numéro et la date d'expiration de votre passeport à notre email voiquiz2018@voinews.id. Je répète, voiquiz2018@voinews.id. Avant le 31 juillet 2018, de 24 heures temps universel.
Show the world, you're as bright as the sun. We
connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir, secrétaire, bienvenue au magazine culturel en programme quotidien sur le tourisme, les alimentations, les arts et la culture de diverses régions d'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous vous présenterons un objet touristique, Curug Mandala. Restez à l'écoute. Subang est l'une des régions de Java West. Elle possède diverses destinations touristiques qui sont également développées par le gouvernement local pour le tourisme. Parmi les diverses destinations qui existent, Subang est connue pour la destination touristique de la baignade de Shot, de Theater et Curug ou Inbel Cascade. Serviteur, l'une des belles destinations touristiques de cascade à Subang que vous devez visiter lors de la visite est Curug ou la cascade de Mandala. Curug Mandala est situé à Dusun Panaruban, village de Cicadas, sous-communauté de Sagalaherang, Subang, Java West. Pour aller à Curug Mandala, le temps requis n'est pas trop long car l'endroit est assez proche du centre-ville. Cela prend seulement 30 minutes en utilisant un véhicule à deux roues pour y arriver. En arrivant, à l'entrée de la cascade est de payer des billets d'une valeur de 10 000 rupiah par personne et le stationnement du véhicule coûte 2 000 rupiah par véhicule. Vous pouvez aller dans la forêt pour arriver à la cascade. Il y a le panneau de signalisation pour faciliter les touristes. Curug Mandala a de beaux paysages verts, il y a une plantation de thé et tangdu. Curug Mandala est aussi son propre unicité où la cascade a plusieurs niveaux. Au fond, il y a la cascade la plus haute, ensuite, au-dessous du ruisseau, vous trouverez un autre début d'eau plus courte. Vous dans note, cette forme de cascade ressemble à un escabeau. Voyagez ici, profitez de la fraîcheur de l'eau. N'est pas oublié de capturer également la beauté naturelle de Curug Mandala en prenant des photos. Vous pouvez également faire du camping dans cette attraction touristique. Serviteur nommé Curug Mandala, dans le temps ancien, il y avait un patih du royaume dans la terre Pasundan nommé Patih Mandala. On dit qu'il médite ou moksa ou mort en disparaissant sans laisser de traces ou les corps vers le nirvana dans ce lieu. De cette histoire, alors cette cascade s'appelle Curug Mandala. L'objet touristique de Curug Mandala est officiellement géré par PT Perkebunan Nusantara WIT en collaboration avec les jeunes de Karang Taruna Panaruban, Subang. Parce qu'il a été officiellement géré, les installations publiques sont déjà très bien disponibles dans ce lieu, allant des parkings, des toilettes, de la mosquée ainsi que des jardins de bambou et des jardins pour se reposer. Serviteur, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
La Voix de l'Indonésie depuis Jakarta, dans la rubrique Bahasaku comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
La Voix de l'Indonésie à Jakarta dans le programme Ma langue, comme média de préserver la diversité des langues locales en Indonésie. Chers amis, nous nous rencontrons de nouveau dans le programme Ma langue. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter la province Jawa West afin de connaître de diverses choses sur la langue sundanaise. Bien qu'actuellement écrit en utilisant l'alphabet latin, la langue sundanaise a en fait son propre script qui est communément appelé script sundanais. L'écriture sundanaise est composée d'un script suara ou les voyelles, script ngalagena ou les lettres de consonne et les nombres. Le script suara a 7 voyelles à savoir A et I, O ou E et E. Ensuite, le script ngalagena a fondamentalement 18 lettres consonnes avec la voyelle A, y compris ka, ga, nga, cha, ja, nya, ta, da, na, pa, ba, ma, ya, ra, la, wa, sa, et ha. En outre, le script ngalagena accueille également l'écriture de mots de langue étrangère, à savoir fa, ka, va, sa, za, kia et sha. Chaque consonne sundanaise est écrite et sonnée comme une syllabe. Cependant, les variations dans les nombres connus dans l'écriture sundanaise sont semblables à ceux dans d'autres langues. Il y a des nombres de 0 à 9. Toutes les consonnes de l'écriture sundanaise ou script ngalagena se terminent essentiellement par le son A. Cependant, tous les sons consonantiques de la langue sundanaise peuvent être changés en utilisant rarangken. Rarangken est une règle ou un système de son ou de vocalisation. Avec rarangken, les consonnes sundanaises peuvent se terminer par un son de voyelle autre que A, se terminant par aucun son de voyelle, ni augmentant les consonnes au milieu ou à la fin de la syllabe. Il y a 13 rarangken divisés en 3 lieux d'écriture. D'abord, le rarangken au-dessus de la lettre qui comprend le pangulu, le pamepet, le panulung, le panglayar et le panyecek. Deuxièmement, il y a rarangken sous les lettres qui couvrent panyuku, panyakra et panyiku. La dernière est rarangken qui est parallèle des lettres, qui inclut paneleng, panolong, pamaeh, pangwisat et pangmingkal. C'est quelques exemples de mots ou phrases dans la langue sundanaise. Kamana wae? En français, où étiez-vous? Mani avis tepang. En français, ça fait longtemps. Nyumpingan. En français, visiter. Linggi hela. En français, s'il vous plaît, arrêtez d'abord. Meser. En français, acheter. C'est l'exemple de phrase en sundanais. Et chep kemana wai meni abis tepang. En français, et chep où allez-vous? Longtemps non voir. Et ujang kamari abdi teh nyumpingan abah di Lembang. En français, et ujang hier j'ai visité mon père à Bandung. Terus urang linggehela di Cianjur meser tauco. En français, ensuite je me suis arrêté à Cianjur pour acheter tauco. Si vous avez des critiques et des suggestions, s'il vous plaît, écrivez-nous à voi@voinews.id, voi@voinews.id ou à notre page de médias sociaux, Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia. C'était le programme Ma langue, comédia de préserver la diversité des langues locales en indonésien.
La voix de l'Indonésie depuis Jakarta dans la rubrique Bahasaku comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Chers amis de quatre coins du monde, bonsoir et comment allez-vous? Nous espérons que vous êtes en bonne santé. Vous écoutez notre programme musical de la Vendredi, l'émission en langue française. Dans cette édition, nous allons vous présenter une chanteuse, Nia Daniati. Bon, chers auditeurs et chers auditeurs, pour ouvrir notre rencontre, voici sa chanson intitulée Tas en verre. Bonne écoute.
Pernah sepi yang mencekam menusuk hatiku. Kemana aku melangkah? Aku ingin pulang ke pangkuan ibu dan saya. Mataku terpejam, hati pun menangis menantikan diri. Malam yang berlalu tak pernah tersenyum menghantarkan tidurku. Gelas-gelas pecahan berikan aku cerita.
Chers amis, il y a un artiste qui est né à Jakarta le 17 avril 1964, est une chanteuse qui a la voix mélodieuse. Elle a coloré le monde de la musique indonésienne à l'an 1980. À cette époque, l'industrie de la musique indonésienne était animée par les chansons pop mélancoliques, des compositions de Pancho Pondaa, Obi Mesa et Rinto Harahap. Le dernier nom était un compositeur qui a popularisé Nia Daniati. Grâce à la chanson intitulée Tas en verre de la composition de Rinto Harahap, le nom de Nia Daniati est plus populaire au monde de la musique indonésie, ensemble avec les autres chanteuses connues indonésiennes comme par exemple Dian Piscesa et Betaria Sonata. Bon, c'est retard, on écoute la chanson intitulée Une nuit à Cianjur de Nia Daniati. Bonne écoute.
Chers amis, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Avant de terminer cette émission, nous présenterons les musiques indonésiennes. Merci à tous et à bientôt!
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, La Voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook, The Voice of Indonesia, et Twitter, @VOIINDONESIA, ou bien Instagram, voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.